Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai? Et si c'était vrai, un podcast avec Alexandra Duvivier, Dominique Duvivier, qui nous permet de rentrer, de lever un coin du voile sur la création d'un spectacle de magie complet. Donc là, en l'occurrence, le nouveau spectacle d'Alexandra Duvivier qui s'appelle Secret de fabrication et sur lequel on travaille, on parle, on devise depuis maintenant quelques numéros. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas fini encore. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce spectacle. Et finalement, je vois que parfois on effleure les sujets, on n'a pas beaucoup de temps parfois pour creuser plus, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et notamment ce dont on va parler là par rapport à ce spectacle, toujours. Donc merci Alexandra, merci Dominique d'être là et de partager ça.
Non, c'est avec plaisir, c'est toujours sympa d'en parler.
Et enfin, franchement, je pense que c'est une mine d'or. Alors, je ne suis pas très objectif en disant ça, c'est évident, hein, mais je pense quand même que l'ensemble de ces numéros de « Et si c'était vrai
ah », oui.
Dans leur ensemble, eh bien, est une mine d'or pour tout passionné de magie, toute personne qui réfléchit à créer un spectacle. Ça peut quand même être une source d'aspiration.
Mais complètement. Surtout que je te dis, comme je te disais en off, tu arrives à poser des bonnes questions, à faire parler, et ça, c'est aussi un talent, parce que papa, il est évident qu'il a plein de choses à dire, même si certains peuvent en douter, les pauvres. Mais encore faut-il pouvoir le faire parler, justement, lui faire dire, lui faire sortir. Donc ouais, c'est bien. Travail d'équipe.
Eh bien, merci, merci, merci. Alors là, on va aborder l'introduction du spectacle.
Voilà, la vraie introduction. Parce que tout à l'heure, tu parlais de l'introduction qui était le menu, mais c'est pas ça, l'intro.
Tout à fait. Tu vois, j'ai fait une erreur.
Non, c'est pas grave. Oui. Aucune importance.
Et exactement. L'introduction, c'est pas du tout le menu. Non. C'est, c'est les éventails mémoire d'une geisha.
C'est ça, les éventails. Voilà. Les éventails.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les éventails, Alexandra? Pourquoi tu as souhaité commencer le spectacle comme ça? Peux-tu nous en dire plus?
Ah ouais, j'avais un rêve, c'est un peu comme à la fin d'Entre vous et moi, je voulais, on ne sait pas pourquoi, d'où c'est sorti, je voulais jouer un morceau de ukulélé. Donc je joue un morceau de ukulélé, je ne sais pas en faire deux, c'est un, c'est celui-là. Je ne suis pas musicienne pour de rond, j'adore la musique mais je n'en joue pas. Et ben là c'était un peu ça, j'avais envie, j'ai des espèces de rêves, de scènes. Oui. La magie de scène, c'est pas mon truc. Même si j'aime bien être sur scène, c'est un peu deux catégories différentes pour moi. La grande illusion, par exemple, j'adore regarder, mais c'est pas fait pour moi. J'ai pas envie de pousser une boîte en racontant rien.
Oui.
Parce que tu racontes pas grand-chose.
Oui,
à part un truc impossible, un puzzle ou un casse-tête visuel. Et c'est super, attention, je crache pas du tout dans la soupe pour les magiciens de grande illusion, moi ça me fascine. Mais moi, ça me correspond pas. Donc j'avais une envie de scène qui reste salon, double faunesque encore une fois, hein. Et j'avais envie, donc ça, j'avais cette envie-là, j'avais envie... les éventails, moi, j'adore ça. Je trouve ça, je trouve c'est beau, c'est magique. Et t'as le troisième truc, c'est Mémoire d'une geisha. J'ai trouvé ce film magnifique. J'adore l'univers japonais, déjà. Oui. J'adore leur façon de penser, le Kodawari, être en perfection pour tout. Oui. Et ça, je trouve ça, c'est... On manque de ça, quand même, en France, ou peut-être ailleurs. Enfin, moi, je vois ça dans mon pays. On fait tout, la va-vite, on bâcle, on fait, mais parce qu'on est obligé. Ouais, c'est 35 heures, ça peut pas être 36. Enfin, je sais pas, moi, c'est pas ma façon de penser, quoi. Et j'avais envie de mettre tout ça dans un. Et donc, c'était les éventails. Et les éventails, pourquoi? J'avais envie aussi de travailler avec Laurent Beretta, qui est un grand... moi, j'adore ce mec, qui est un grand magicien de scène, qui fait aussi du close-up, mais qui est plus scène. Et justement, je parlais justement des grandes illusions qui n'ont pas d'histoire. Bah lui, il fait des grandes illusions avec une histoire. Et ça, je trouve ça... Voilà, c'est intéressant. Et en même temps, la grande illusion aussi change. Il y a des histoires maintenant, plus, etc. Laurent, c'est quelqu'un que je trouve très intéressant parce qu'il n'est pas juste magicien. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il est médecin à côté? Non, non, il est magicien à temps plein, mais c'est un mec qui réfléchit. C'est un mec qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il a une culture je parle pas magique, parce que la culture magique, il l'a, mais une culture autre que magique, que je trouve intéressante, que tout magicien devrait avoir. Un magicien, souvent, quand tu lui dis, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais Rembrandt, comme tu parlais de Rembrandt dans le podcast précédent, Rembrandt, c'est quoi? C'est une marque de chaussettes? Non, non, c'est un peintre. Tu vois, donc c'est un peu embêtant, ça, pour moi. Et donc, Beretta remplit toutes ces cases, je trouve, c'est un mec brillant. Et lui, il fait un numéro avec des éventails très très complets, il fait toute une routine, plein de trucs. Et donc, il y a 4 ans, je crois qu'on a travaillé ensemble en 2012. Et je lui dis, j'aimerais bien, enfin déjà avant, on en parle avec papa, je lui dis mon rêve, j'aimerais bien faire un truc visuel avec des éventails,
mais on
pas parler.
Au départ, je crois qu'on avait évoqué avec des castagnettes. Tu te rappelles, on voulait faire un peu tango.
Ouais. J'avais.
Et là, papa, il pouvait pas, parce que lui, il sait pas.
Ouais.
Il sait pas faire comme ça. Donc là, c'est Laurent Beretta.
Non. Non, non, mais de toute façon, c'est pas ton univers, c'est pas le mien non plus.
C'est pas un reproche.
Non, non.
C'est que là, justement, encore une fois, le spectacle.
Oui, oui, tout à fait.
Parce que moi, je pourrais peut-être lui donner 2-3 tuyaux, mais c'est pas mon truc, ça.
Oui, on est d'accord. Ouais.
Et Laurent était une évidence. Et puis, on a travaillé ensemble plusieurs fois. Enfin, c'est un mec qui est dans mon collimateur mental. J'aime bien. Donc, du coup, je lui ai demandé, tiens, est-ce que tu pourrais monter? Alors là, carrément. Est-ce que tu peux monter un numéro? Le truc, il fait 2 minutes. Hein. Donc, c'est très court. Et on a travaillé 2 ans dessus.
Ah oui, en
deux
effet.
Minutes de spectacle, 2 ans. Alors, évidemment, pas jour et nuit, parce que Laurent a une vie. Il est très occupé, très demandé. Il travaille beaucoup. Moi, pareil. Donc, c'était délicat. Mais il m'a monté de toutes pièces un numéro et il m'a donné ses trucs à lui. Encore une fois, j'ai fait comme Jeff, comme avec d'autres. J'ai payé ce qu'il faut, mais... À la limite, c'était pas cher ce qu'il m'a vendu, parce qu'il m'a vendu ses trucs à lui.
Ouais.
Il n'a pas été avare de conseils, il m'a donné ses vrais trucs, les trucs de pro qu'il utilise tous les jours. Il m'a construit des éventails spéciaux, enfin, grande classe, quoi.
Oui, c'est un vrai... Il y a une vraie confiance, une vraie séance de travail qui y a débouché. Ouais.
Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, voilà, je veux
là,
un truc
sont,
un peu...
Ils se sont vus plein de fois. Hein,
ah ouais, on s'est vu quoi plus de 10 fois, quoi.
Ouais, ouais.
Pour un mec, je veux dire, il est occupé, quoi. Toi, hein.
Bien sûr.
Donc, c'était un vrai travail. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux raconter? Machin. Je lui ai dit que je voulais cette musique-là, parce que la musique aussi est vachement importante. C'est Ryushi Sakamoto,
ouais.
Le vrai.
David Bowie.
David Bowie, dans le film...
Furio.
Furio, voilà, j'ai un autre titre en tête. Furio, c'est une musique emblématique, quoi. Et quand je lui ai fait écouter la musique, il m'a dit « Ah ouais, Furio, Ryushi Sakamoto !» Donc on était branchés déjà.
Ouais, ouais.
J'ai trouvé ça super, tu vois, croustillant. Je me suis dit « Ah oui, c'est bien, je ne vais pas avoir besoin de me justifier pourquoi cette musique. » Ça le transportait aussi. Et puis voilà, quoi. Il a construit tout.
Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et justement, oui, voilà, les références. Pour le coup, le film, donc, moi, je ne le connais pas.
Mais c'est un très vieux film, quand même. Enfin, vieux.
Mais je rebondis sur la culture et sur le fait de s'ouvrir à d'autres choses, parce que ça permet de nourrir aussi son propre art, son inspiration, et de donner un supplément d'âme à des routines.
Ah ouais, ouais.
Et...
Si t'as rien à dire, c'est très difficile de communiquer quoi que ce soit à un spectateur.
Oui, je pense. Je pense aussi. Et y a aussi, alors, il y a une production d'éventail, notamment, et il y a aussi un changement de costume.
Ouais,
ça fait partie des deux minutes du mm-hmm. numéro complet que mm-hmm. Laurent a créé.
Ouais, ouais, c'est Laurent. Là, sur ce petit truc-là, c'est Laurent et moi. Mais oui, oui.
C'est drôle. Ouais. Non, mais parce que pourquoi ce moment il est important?
Pourquoi ce moment est important?
Pourquoi?
Mais pourquoi? Parce qu'on sort d'une ambiance très apaisée,
ouais.
Très apaisante, c'est un début de spectacle, mais pour autant le fait que Alexandra passe par les coulisses et revienne de l'autre côté est changé, donc il se passe 2 secondes, je sais pas, et changé. Ça dynamise le moment parce que les gens se réveillent du moment apaisant,
mm-hmm.
tu vois, qu'on vient de vivre, et y a un « ah » et ça te permet d'enchaîner mm-hmm. en disant « ben, y a des observateurs », etc.
Ouais.
Donc c'est très bien ce moment qui fait que on va pouvoir parler.
Exactement. Hein,
parce que là, on ne pouvait pas parler il y a 2 secondes d'avant.
Ah non, ça ne s'y prêtait pas.
Voilà.
Ça ne s'y prêtait pas, puisqu'il y a de marrant aussi ce que je ressens quand j'arrive sur scène entre guillemets, en kimono, disons.
Oui.
En geisha, mais en kimono. C'est que les gens, ils ont envie, ouais. Ah non, on rigole pas là. Oui, non. Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est parce qu'il y en a qui me connaissent, donc du coup ils disent ah ouais, on va se faire de la poire. Ah mais non, ah, c'est sérieux, bon d'accord, on parle pas. Et après j'arrive, tatin, ah non, mais non, c'était vraiment elle, c'était Alexandra. Donc c'est une facette, voilà, j'avais envie d'avoir une facette supplémentaire.
De toute façon, elle avait envie dans ce spectacle, elle a chanté dans le précédent,
oui.
Elle voulait danser, elle voulait faire des chorégraphies, elle voulait faire plein de choses, quoi.
Ouais.
Montrer que la magie, c'est un art multiple.
Ouais. Qu'on peut s'exprimer à travers...
Qu'on peut, voilà, s'exprimer et puis montrer ce que moi me fait vibrer.
Ouais. Alors, ce qui nous fait vibrer aussi, et ô combien, pour moi, c'est... Dans le spectacle, et si c'était vrai, c'est avec le fil, certainement le plus gros moment. C'est marrant parce que en fait, il y a que des gros moments, mais bon, mais là,
tant mieux, tant mieux.
Le Moulin Rouge, donc
Moulin
la
Rouge.
Fin.
La fin.
Alors, je vais pas la raconter parce que j'ai envie que ce soit vous qui décriviez un petit peu l'univers, l'ambiance, et puis on travaillera un petit
peu. Voilà, au départ, la base du sketch est d'un de mes anciens élèves. Qui lui a donné.
Moi, je lui ai demandé. Je lui ai demandé et il m'a gentiment donné la permission.
Par contre, on a trouvé qu'il y avait des choses à faire.
D'accord.
Parce qu'il y avait une bonne trame.
Voilà, sa trame était bonne.
Ouais, c'était bien.
Mais on a quand même transformé beaucoup de choses.
D'accord.
Moi, je crois que, et s'il le voyait, il dirait effectivement... Enfin, je pense, hein, après, chacun va midi à sa porte, mais je pense qu'il dirait, ouais, vous avez été plus loin parce qu'on a ramené plus d'effets, on a fait plus de choses. On a gardé sa trame. De toute façon, moi, quand j'ai vu ce tour-là de ton élève, je me suis dit, pourquoi j'ai pas pensé avant ?
Ouais.
Et pourquoi j'ai pas fait un tour sur Moulin Rouge ? Parce que ça m'avait fait tellement...
C'est un film qui l'a marqué, ça.
Ah ouais, ça me fait marquer, parce que Nicole Kidman, elle est merveilleuse. Alors après, encore une fois, t'aimes pas. Ça bouge trop, c'est un clip d'une heure et demie, ça saoule. Mais moi, ça me saoule pas. Mais je peux comprendre. Mais c'est tellement beau, les décors sont magnifiques, ils chantent tous les deux bien, alors que ce ne sont quand même pas des chanteurs. C'est quelque part, c'est ce que j'aimerais faire moi.
Ouais.
Donc je crois que quand il y a un truc qui me fait kiffer autant, c'est parce que je me dis, ah ouais, j'aimerais bien aimer faire ça. Donc une façon de le faire finalement, d'être dans le film de Baz Luhrmann, bah, c'est de faire ce tour Moulin Rouge.
Mais ce tour, à la base, il ne s'appelait pas Moulin Rouge, si ? Non.
Ah si, quand ton élève il faisait, c'était avec Moulin Rouge.
Ah oui.
Ah oui. Parce que on se trouve que on l'a vu à la même période et lui ça lui aussi ça l'a fait phosphorer et il a fait ce tour-là. Enfin ce tour-là, pas du tout dans cette version-là, mais il a fait ce tour-là.
D'accord. Alors est-ce qu'on peut décrire un peu ce qui se passe sur la table pour
qu'on sache
de quoi on
parle ? Encore une fois, on peut toujours, mais c'est vrai que moi c'est souvent délicat de dire ouais ce spectacle il est génial. Non, tu vas le voir et puis après tu me dis que c'est génial. Je préfère ça. Hein.
Non, mais j'entends, mais.
Mais bon, c'est une mise en mots, mise en lumière sur une musique qui est déjà poignante d'Elton John au départ, qui est interprétée par justement Ewan McGregor. Et c'est juste une interprétation de la musique, mais en vrai.
Ouais.
T'as pas les musiciens qui sont là, mais t'as la magie qui est là au travers de la musique.
Mais dis donc, c'est un tour de cartes.
Voilà, c'est ça.
Il y a des cartes, effectivement.
Il y a des cartes, mais c'est pas un tour de cartes, c'est un tour avec des cartes.
C'est ça.
Les cartes, elles sont mélangées, elles sont apparemment normales, et puis petit à petit, elles vont s'écrire.
Ouais.
Elles s'impriment de la musique.
Voilà, elles vont s'imprimer de couleurs par rapport à ce qui se dit dans la chanson. Elles vont se transformer, elles vont s'élargir, grossir, enfin ça devient exponentiel. Quoi.
Ouais, ouais. C'est vraiment...
Ça, c'est pour répondre un peu au tour. Ouais.
Voilà, c'est ça. Donc là, on a une vision. Et alors, quel est le positionnement de ce tour qui se termine, qui termine le spectacle ? C'était une évidence tout de suite ?
Oh bah oui, parce que c'est un tour très fort. Non, attention, je ne sais pas parce que je passe plus la tête, ma tête passe plus les
portes. Non, mais c'est
portes.
La vérité. Non,
c'est
non,
très
non,
fort dans sûr. Le sens où c'est très, pour moi, très très fort émotionnellement.
Oui,
donc tu ne peux pas mettre ça en plein milieu du spectacle, ce serait vraiment décalé.
Oui.
Et ce ne serait pas dans le bon rythme.
Oui.
Donc trop fort pour le mettre ni en début ni au milieu, donc il était obligé de se mettre vers la fin, oui. À la fin.
Et donc dans la continuité en plus du fil.
Oui. Bah ouais, parce que Moulin Rouge, c'est quand même une chanson d'amour. Et le fil, ça se termine par quand même une déclaration, toute proportion gardée, avec pudeur, tout ça, mais c'est quand même une déclaration d'amour.
Oui.
Donc ça allait bien l'un dans l'autre.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Et donc il y a la liaison en plus avec la musique.
Ouais, ouais. Bah oui, du coup c'était facile, entre guillemets, de mettre une liaison de Moulin Rouge à Moulin Rouge, si je puis dire, du fil autour Moulin Rouge. C'était facile de raccorder les deux.
Ouais. Et donc ça c'est super parce que ça donne un moment d'émotion du spectacle qui dure et qui va crescendo et qui fait que, bien entendu, on a envie de se lever à la fin.
Ben, tant mieux.
Ouais,
tant mieux.
On a vraiment, vraiment envie de se lever parce que la construction du spectacle, c'est une magnifique conclusion. Et ce qui est intéressant, malgré tout, c'est qu'il n'écrase pas tout le reste.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que c'est, comme c'est fort en émotion, c'est fort en visuel, parce qu'en effet, on a un jeu de cartes qui va s'imprégner de la musique, des paroles.
Il va s'animer, quoi.
Voilà, exactement. Et bien.
Mais ça va. Tu vois, c'est en ça où je pense que l'écriture est intéressante, parce qu'elle va parler de son fameux Rick Block.
David, enfin,
David Block, pardon, pas Rick Block. Rick Block, qui est un copain à nous, mais qui est magicien.
Ouais.
David Block, qui est vraiment son premier amour. Et je pense que ce premier amour, qui finalement se magnifie par le Moulin Rouge, qui est une déclaration d'amour, mais entre-temps le fil, enfin bon, toutes ces choses se ramifient. Et je pense que parce qu'elle a raconté qu'elle s'est mise un peu à poil au niveau de son passé, de son présent, je pense que tout ça, ça va faire un tout.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et comme quoi, ce spectacle-là... vivement le 4, s'il est encore mieux que le 3.
Ça va être chaud. Non, mais là, je vais me mettre aux séries, là, c'est bon.
Alors, mais justement, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir quand même parler de David Block et de tout ce qui tourne autour, parce qu'il y a une série de mentalisme aussi.
Ouais, alors avant qu'on parle du mentalisme, c'est ce que je n'étais pour pas l'oublier, mais je pense que ça va mieux dans le sujet d'avant, c'est que pourquoi en fait il y a David Block, il y a le fil « J'aurais connu la fin » de Michael Jackson, etc., de Moulin Rouge, et puis tous les autres trucs, parce qu'il y a les Dimbats aussi, etc.
Oui.
Pourquoi il y a tout ça? C'est une façon pour moi de donner. Pourtant, je ne donne pas des billets de 100 euros, je ne donne pas un livre à chacun. J'avais un élève là qui me fait un tour et je lui dis « Ouais, c'est bien ton tour, hein, c'est bien. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu donnes quelque chose. Je te demande pas de donner un anneau chinois en souvenir. Mmh. Je te demande de donner un truc de toi. Mmh. » Et ben là, je crois que ce qu'il en ressort de Secret de Fabrication, c'est que je donne plein de trucs, justement, de moi.
Ouais.
Comme tu disais, je me mets à poil et c'est que des trucs vrais, c'est véridique.
Mais ça... On le voyait déjà dans Seul et dans Entre vous et moi.
Je crois que c'est ma personnalité.
Oui.
Ça fait partie, comme mes petits objets pourris, caravane, machin, dont on parlait dans un des podcasts. Je crois que même à 60 balais, je vais sortir ma caravane. Mais il faudrait que je dise, c'est à mes petits-enfants, et plus à moi. Enfin, tu vois, il faut trouver un gimmick verbal, là, du coup. Mais ça, c'est moi, c'est comment je suis constituée.
Ouais.
Donc oui, je crois qu'il faut donner des trucs au public. C'est important. Donc tu peux parler mentalisme, maintenant.
Alors mentalisme et David, parce que, en effet, ce qu'on apprend dans le petit livret distribué à la fin du spectacle, c'est que tu as gardé le vrai nom, en fait.
Parce que si je me suis dit, si un jour...
Ce serait drôle que...
Si un jour, il venait au spectacle, putain, ça serait trop, trop de la balle, quoi.
Mais oui.
T'imagines ? Parce que là, je lui dirais enfin que je l'ai aimé, quoi.
Il le sait pas.
Ah,
c'est drôle. C'est drôle. Alors, il y a une photo, elle est floue. Il y a la partie Alexandra qui est nette.
Ouais.
Et puis le reste est flou. Donc, mais c'est très, très drôle. et donc, ça donne l'occasion, ce scénario-là, donne l'occasion de faire une démonstration de mentalisme. C'est génial. Alors, c'est pas du mentalisme qui est embêtant, qui est ennuyeux, ni rien. Mais c'est venu comment? Alors là, pour le coup, c'est vrai que concernant le mentalisme, on sait que vous avez moins de feeling par rapport à,
oui, mais
à cette discipline.
Pareil, moi j'ai glané pendant
l'un
des
et l'autre,
années.
Hein. Ouais, ouais.
Parce que j'avais envie qu'elle fasse quelque chose avec ça, ouais. Vois, avec le mentalisme, avec le book test. Donc j'en ai acheté, on va dire, des dizaines. Et j'ai toujours eu l'idée qu'elle fasse un sketch avec ça. Et un jour, on a réfléchi comment on pouvait donner du sens.
Ouais.
Et le sens, justement, c'était David Bloch.
Ouais.
C'était qu'elle raconte quelque chose de personnel par rapport à ses livres.
Ouais. Et ça a donné naissance à... Alors, c'est une routine hyper riche. Hein.
Ouais,
parce
c'est
qu'elle
cool,
est
hein.
très complexe. Ouais. Ça a été écrit un peu comme quand j'avais écrit le triptyque. Entre vous et moi, où c'est 3-4 tours.
C'est 3 tours que j'avais
qui n'ont rien à voir.
J'avais inventé indépendamment, je lui ai montré, et il m'a dit oh, c'est bien, mais il faut tout mélanger. Hein? Ok. Très bien.
Voilà. Et pour moi, c'était une gageure, mais j'étais sûr que ça deviendrait clair en mélangeant les 4 tours. Et là, c'est pareil avec le book test, où il y a plusieurs livres, il y a plusieurs principes, c'est tout un tas de machins. Mais surtout l'histoire de David Bloch. Par rapport à Jerry Lewis, par rapport à Isabella Rossellini, bah, des choses qui sont importantes pour elle.
Et là encore, quel texte ? Bah, comment, enfin, faut tout retenir, quoi. Parce que t'as un texte à dire qui sert la routine, le texte de la mise en scène, et puis tu as le texte des effets de gens qui vont ouvrir des pages au hasard et il va se passer des choses.
Oui.
Mais ça, tu t'es approprié ça facilement? Comment ça a été le fait de travailler ces techniques-là?
Bah ça, on a fait plusieurs sessions avec papa, ça a été plus long.
Mmh. Oui.
On a fait... Je sais pourquoi, parce que j'ai quand même... Parce qu'on enregistre tout ce qu'on fait, c'est pour après, je te réécoute, j'ai pas dit ça, l'idée c'était d'aller ça et de faire ça, parce qu'après tu te souviens plus forcément de tout. On fait des sessions de travail, donc on enregistre, mais j'écris tout sur ordinateur en même temps pendant qu'on parle.
Ah oui.
Et on a dû faire au moins 3 sessions, rien que sur le book test, sur le mentalisme.
Ouais.
Donc c'était long, parce que... Alors déjà, on fait quoi comme phase? On fait quels effets? Alors maintenant, bon, okay, on sait quels effets on fait. Ça, c'est une séance. Non, on a dû faire plus que 3 séances. On a dû faire 5 séances là-dessus.
Oui.
La moitié, c'était pour se dire qu'on fait quels effets, dans quel ordre.
Ouais.
C'est pas facile, le crescendo, qu'est-ce qui est plus fort, moins fort, etc.
Oui.
Et après, c'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est ça, c'est David Bloch, je l'ai vu en 4e, 5e, et là, papa a vu, frustration, etc. Ah, ça va bien. Maintenant, on met ça ensemble. Donc, tout ça, bah, je l'ai écrit, on l'a dit, je l'ai recopié. Et puis, j'ai fait... C'est pour ça que j'ai là, c'est marrant. J'ai mon dossier, là. Il fait quoi peut-être 10 cm d'épaisseur.
Oui, oui, oui.
C'est toutes les moutures de tous les tours et toutes les moutures des différents ordres du spectacle.
Ah oui.
Ça, c'est que Secret Fabrication, les versions antérieures. Et donc, là, il y a les textes du book test, il y a les textes de tout, quoi. Mais parce qu'il a évolué, parce qu'on a tout, j'ai tout écrit, parce que papa me disait, alors tiens, ce serait bien que tu dis ça à ce moment-là. Ah ouais, d'accord, mais alors à quel moment, quand je dis stop? Non, mais avant que tu dis stop. Ah oui, d'accord, avant que je dis stop. Ah, tu vois, donc c'est comme une, en fait, c'est comme une routine technique, le texte, mais c'est juste le texte.
Bah, c'est une technique de texte.
Ah voilà. Oui, en effet.
Ça aussi, souvent les magiciens ne se rendent pas assez compte que la technique, c'est bien sûr, on fait un break, on fait un empalmage, on fait ce qu'on veut. Mais la technique, c'est aussi de dire tabouret, de dire table, mais dans un ordre précis, avec une intonation précise. C'est ça qui va construire aussi...
un moment choisi.
Donc ça a été du travail. Enfin bon, je dirais tout a été du travail. Donc il n'y a pas un tour où je me dis « Ah ça, c'était plus de travail qu'un autre. »
C'est
vois.
Pour ça que ça a mis 10 ans.
Ouais, parce que c'est quand même, c'est beaucoup de travail, quoi. Puis c'est des trucs riches, c'est des trucs longs, puis voilà, quoi. Mais j'étais super contente de faire du mentalisme, parce qu'effectivement, j'en avais jamais fait. Mais je voulais pas faire du mentalisme. Maintenant, on rigole plus, c'est sérieux, je vais lire dans tes pensées. Ouais. Ah, ça, c'est pas du tout mon trip, tu vois, c'est pas moi.
Ouais.
Donc c'est pour ça que papa, le sachant, bah, il a adapté à ma personnalité.
Et ça donne quelque chose qui, évidemment, est hyper bluffant. Pas du tout fatigant, ennuyeux et lourd, quoi. Comme ce qu'on
cool.
peut mieux. Voir dans le domaine du mentalisme parfois, même s'il y a des mentalistes, évidemment, qui ont beaucoup de talent et
ah,
qui
oui,
arrivent
oui.
à animer ça.
Un des trucs qu'on a vraiment... c'était un truc important pour nous. C'est pas qu'elle montre qu'elle a des pouvoirs.
Oui.
Un peu comme quand j'ai inventé l'analyse morphopsychologique pour moi... pour le hasard, c'est moi, bah, je vais deviner ce que tu penses, mais je ne vais pas deviner ce que tu penses. Mmh. Parce que je trouve que c'est pompeux, tu vois, ça. Oui. Je vais, c'est... par l'étude du visage, tu vas te trahir, et du coup, je vais déceler ce que tu penses.
Je ne vais pas rentrer dans ton cerveau.
Mais c'est pas pareil.
Oui, absolument.
C'est plus crédible. Oui. Donc elle l'a fait sur plein de systèmes différents. Mmh.
Et ce qui est amusant avec l'analyse morpho-psychologique, c'est qu'en plus, il y a un jeu, forcément, avec le spectateur qui essaye de ne pas bouger. On lui dit « Ah, t'as bougé quand même !»
Alors que là, elle va faire de la motologie, ou elle va faire des choses comme ça.
L'étude comportementale.
Des choses qui peuvent être compréhensibles. Enfin, tu vois, on peut imaginer
c'est plausible.
Qu'en étant aguerri, on puisse faire.
Oui.
C'est crédible. C'est crédible. Oui, et puis, de toute façon, il y a plein de gens qui s'appuient sur ça, déjà, en plus.
Oui, oui. Et puis le fait de mémoriser telle page à tel moment, ça c'est expliqué par le fait que David lisait un livre et donc du
Exactement.
Coup tu as eu envie de le lire.
Ah bah je le connais ce livre par cœur.
Elle le connaissait par cœur parce qu'elle attendait qu'il lui parle pour lui montrer qu'elle était sur le coup.
Voilà.
Ça n'a jamais marché, mais n'empêche qu'elle elle a fait pour ça.
Ouais.
Et ça aussi, ça a du sens.
Oui.
Ça a Exactement. Du sens. Ça c'est pas vrai. Mais le reste est vrai. Mais tu vois, peu importe, puisque de toute façon, 80% de tout est vrai, on peut se permettre de mettre 20% qui n'est pas vrai.
Ouais.
Du moment que ça reste crédible, encore une fois, ça va.
Tout à fait. Et donc on arrive à quelque chose alors là, qui assoit tout le monde dans la bonne humeur, toujours. Ben là, c'est un moment plutôt...
C'est festif.
Oui, voilà.
Ouais, c'est joyeux.
Festif.
Je me prends pas la tête. J'ai pas envie de leur dire je suis super balèze, puis toi t'es une merde.
Ouais.
J'ai jamais envie de leur dire de toute façon, mais encore moins là. Ouais. Parce que ça fascine les gens, ils ont envie. Hein. Les gens sont crédules.
Ouais. Avec un vrai effet magique à la fin, où on sort à la fin, le final sort un petit peu du mentalisme pur et dur, on va dire.
Ouais.
Parce qu'il y a cette histoire d'enveloppe. Je ne vais pas en dire trop parce que là ce serait dommage. Mais on finit par un effet magique en fait.
Ouais.
Plus que par un effet de mentalisme, et je trouve ça très intéressant.
Ouais.
Bah c'est bien de ramifier, de ne pas faire pas être linéaire, quoi, finalement.
Quelle richesse, ce spectacle Secret de Fabrication. Alexandra, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous les secrets de fabrication de ce spectacle.
Mais avec joie, parce que c'est ça que j'avais envie de faire dans ce spectacle, c'est de leur dire comment je fonctionne. Et même s'ils attendent les vrais secrets techniques, comment ça marche et tout, je leur donne quand même les secrets de mes fabrications, mais pas dans le sens technique, magique, mais dans mon sens perso. Donc, il y a deux choses que je voulais rajouter avant qu'on clôture. Je suppose que c'est le dernier podcast sur le sujet.
Oui.
Donc, je me permets.
Mais
la première chose, c'est que dans ce spectacle, j'adore tous mes spectacles, mais là, je trouve, je me sens confortable, je me sens bien. L'écriture de papa, c'est comme, tu vois, j'ai une robe là, ça me va comme un gant. Bah, c'est pareil pour ce spectacle, ça me va comme un gant. Et je sens que j'ai éclos, explosé, maturifié, après tu inventes les mots que tu veux, mais le rapport avec le public, c'est un bonheur.
Ah oui.
Le mec, il me dit tabouret, je lui dis ouais, chaise, et il n'y a pas de problème. Et peu importe qu'il va me dire, peut-être que demain, il va me dire un truc, ça va me sécher, je ne saurais pas quoi dire. Mais maintenant, c'est un plaisir sans nom de rebondir sur ce que les gens vont me dire. Et je trouve ça, c'est vraiment, c'est pas du tout écrit ça par contre. Mais c'est moi qui suis plus, on va dire, j'ai plus d'expérience, j'ai plus de tout. Et je dirais encore heureux, parce qu'à 44 ans, si t'as pas plus de tout, je vais devenir nageuse, quoi, tu vois.
Ouais.
Et donc là, c'est vraiment bonheur, parce que peu importe ce qu'il me dit, je suis au taquet de répondre, tout en faisant des trucs vachement durs, quoi. Ouais,
tout à fait.
Quand même, hein. Ça, et ça, je suis super fière de moi. Et là, l'auditeur lambda pourra être surpris de ce mot dans ma bouche, mais je suis super fière de moi parce que je sens que je maîtrise.
Ah, c'est bien, mais non, mais alors, oui.
Et ça, je suis super contente. Et la deuxième chose que je voulais rajouter, c'est que ça va dans la lignée de ça, c'est que le... Je répète ma date, je crois que je ne suis pas sûre, hein, c'est le 14 novembre 2016. J'ai appris la date par cœur parce qu'il y a des moments, il faut, pour pouvoir aller mieux, on va dire, dans sa tête, je parle de moi, il faut pouvoir se raccrocher à des choses spécifiques qui te disent, tu te souviens, ce jour-là, tu as eu ça, donc maintenant tu arrêtes de douter.
Ouais.
Ce jour-là, il y a Michel Polnareff qui vient au spectacle, ouais, qui vient nous voir, papa et moi. Il se trouve que toi, tu faisais la première partie, parce que dans ce secret de fabrication, oui, des 6 premières fois, papa, en avant-première, faisait un spectacle d'une demi-heure, qu'il n'a jamais fait, qu'il ne refera jamais. Et après, je faisais les avant-premières de mon nouveau spectacle. Et Michel Polnareff nous dit, bah, tiens, parce qu'il se trouve qu'il était en France à ce moment-là, il appelle papa, lui dit, bah, tiens, je viens demain. Demain étant le 14 novembre, en l'occurrence, genre, je viens... Alors attends, demain, mais attends, parce que c'est là où je fais quand même mon one woman show, c'est pas bon. Et c'était pas à la première, mais c'était genre à la deuxième, enfin c'était chaud dans ma tête. Ah, ou non, c'était peut-être à la cinquième, à l'avant-dernière. Il dit, bah oui, je viens. Bon, on se dit, tu sais, c'est une star, on n'est pas sûr qu'il vienne, parce que si ça se trouve, il va y avoir un dîner plus important à la dernière minute, donc rien n'est fait, pas de problème. Sauf que le lendemain, il vient vraiment. Il vient d'une simplicité sans nom. Le mec, il dit, vous voulez qu'on vous descende en bas pour pas que vous soyez... Non, non, je vais me mettre là, dans le coin. Donc, il est allé sous la fontaine, tu sais, la fontaine avec le robinet,
oui,
magique.
Oui.
Bah là, tranquille, pépère, sans problème. Il était accessible. C'est quand même une overstar, quoi, ah, Michel Polnareff.
Incroyable.
Parce que c'est un pote de papa depuis,
oui, depuis
40 ans. Hein.
Ah, c'est génial.
Enfin, il y a toute une histoire avec Michel Polnareff, mais là, je voulais dire mon truc, après, tu pourras dire plus. Et donc, il vient, il voit la première partie, il est aux anges, putain, c'est génial, Dominique, trop bien. Puis là, on se dit, moi, forcément, j'y pense, parce que il a pas mangé, il a sa famille avec lui, enfin, c'est délicat, quoi. Il va peut-être pas rester pour le deuxième spectacle. Bah si, il reste pour le deuxième spectacle. Bon. Alors là, maintenant, je sais qu'il est là, qu'il va rester. C'est genre la flip, mais tu peux pas imaginer flip.
T'avais envie qu'il reste en même temps.
Bien sûr que t'as,
ouais,
envie qu'il reste.
Ouais.
C'est obligé, mais t'as tellement envie de... Excusez-moi, les auditeurs te chient dessus, que c'est... Qu'est-ce qui est le plus fort? Voilà, évidemment, c'est qu'il soit là qui est le plus fort. Donc bref, il reste. Et là, à la fin du spectacle, ça a été le premier à se lever. Et là, c'est pour ça que je me souviens de la date. C'est parce que tu te dis... Donc, Michel Polnareff se lève pour la fin de ton spectacle, ça veut dire que tu peux te dire, tu peux essayer de te souvenir que t'as été bonne, pas juste ce soir-là, mais peut-être t'es bonne en fait un peu. Essaye de te calmer,
ouais,
et de tirer profit de ça pour toi.
Ouais.
Et à la sortie du spectacle, Michel, il vient me voir et il me dit, mais elle m'a fait pleurer, hein.
Ouais.
Elle m'a fait couler la larme, hein. Elle est trop forte, ta fille. C'est bonheur, ça.
C'est extraordinaire.
Ouais, c'est extraordinaire. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que pour moi, c'est important.
Ah ben, merci pour d'avoir partagé cette anecdote-là. C'est extrêmement important. Ben, voilà, je pense que ça va fermer correctement et d'une façon magnifique ce décorticage de secrets de fabrication. Merci encore, merci Dominique, merci Alexandra,
merci Lionel
pour ce partage, et puis on se retrouve bien entendu pour parler de toute autre chose lors d'un numéro qui va venir. Merci, au revoir, à bientôt.
À bientôt.
Salut.